franceinter.fr.
On n'arrête pas l'écho. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Emmanuel Macron is Jupiter. I'm Hermès, the messenger.
Je vous ai vu, vous, sur les réseaux sociaux, vous vous êtes repassé en boucle le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, devant les financiers à New York qui évoquent son président, lui Jupiter, moi Hermès. Mais avez-vous écouté le message du messager ? Hermès a dit « La finance n'est plus notre ennemi » et toc. Eh oui, cette semaine, il y a eu ça. Il y a eu aussi la charge massive de la Cour des comptes contre le dernier budget du quinquennat Hollande.
Oui, en effet, j'ai les oreilles qui bourdonnent.
On dirait que la bienveillance aussi, c'était avant. À présent, il s'agit de concrétiser les promesses ou pas et quand. Est-ce que vous avez entendu la suite du discours du ministre de l'économie ? Il a dit « Nous sommes prêts à faire ce qui est nécessaire pour rendre la France plus attractive, que ce soit en matière sociale ou fiscale. » Amis auditeurs, inscrivons donc ensemble quelques dates importantes sur notre calendrier éco-soc. Mardi prochain, discours de politique générale, on devrait avoir une idée des mesures d'économie. Le 12 juillet, annonce sur l'attractivité, une fiscalité plus alléchante pour les banques américaines par exemple. Le 20 juillet, Assemblée nationale, le débat d'orientation des finances publiques. Et puis, tout au long de l'été, le chantier de la réforme du Code du travail. Allez, on va avoir des choses à se raconter à la rentrée.
Allez hop, vacances, tranquille, calme, sérénité. Là, tu vas être très très bien.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Hey, hey, c'est le dernier Mag'écho de cette saison. Ce samedi, On n'arrête pas est réalisé par Swad Boukorsa, notre excellent Jérémy Younes est fidèle au poste et Sacha Trop nous accompagne à la technique. Une invitée exceptionnelle ce matin, c'est la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager. Vous savez bien, c'est elle qui a infligé cette semaine une amende record à Google. C'est elle qui fait trembler les multinationales qui font de l'évaporation, voilà, l'évaporation fiscale. Et pour ceux qui s'en souviennent, c'est aussi elle qui a inspiré la série Borgen. Bref, un personnage déterminé, charismatique, un autre visage de Bruxelles. Un seul entretien aux médias français après la décision Google, il est pour On n'arrête pas l'écho. Je vous propose de retrouver Margrethe Vestager vers 9h40. Auparavant, nous aurons eu le plaisir de nous attaquer au petit psychodrame économique de la semaine, le dérapage du déficit public. À quelle mesure d'économie tout cela nous mène-t-il ? Évidemment, le débat. Bienvenue Christophe Rameau.
Bonjour.
Christophe Rameau, maître de conférence au Centre d'économie de la Sorbonne, on dit aussi enseignant à l'Université Paris 1, plus simplement. Et ce samedi, vous, l'économiste atterré, débattrez avec notre... Il a dit déterré tout à l'heure. On l'a déterré à BFM Business. Non, c'est pas vrai. Il est en majesté dans son média. Bonjour Emmanuel Le Chip.
Bonjour à tous.
Emmanuel, moi je sais que Margrethe Vestager, c'est votre héroïne européenne.
Oui, c'est mon héroïne européenne. D'abord parce que ça dit qu'en fait, cette commission, son action, beaucoup plus qu'on le croit, est moins le poids de l'institution que des personnalités qui portent finalement et qui défendent les intérêts européens. Et c'est vrai que ces dernières années, on n'avait pas toujours été très bien servi. Et puis plus globalement, moi je trouve que cette commission européenne, elle corrige au fil des années, allez, j'allais dire les errements un petit peu trop dogmatiques, libéraux bêtes
des années
90. Regardez, c'est vrai qu'il y a eu trop d'orthodoxie budgétaire un petit peu stupide. Eh bien, on fait un grand plan d'investissement. La question des travailleurs détachés, c'est vrai que ça met des entreprises françaises face à de la concurrence déloyale. On est en train d'essayer de corriger le tir. Et puis enfin, face aux GAFA, à ces géants américains qui rusent avec la fiscalité, eh bien, on tape du poing sur la table. Décidément, l'Europe, elle est en plutôt bonne forme en ce moment.
Bien. Margrethe Vestager, un hommage d'Emmanuel Le Chypre. Je salue notre femme d'exception, notre héroïne à nous, Sandrine Foulon. Bonjour Sandrine.
Bonjour Alexandra.
C'est une jeune femme, Maude, qui vous a écrit dans la réforme du Code du travail. Maude veut des éclaircissements.
Oui, elle veut des précisions sur ce futur contrat de travail que nous concocte le gouvernement.
Ma vie au boulot, ça sera juste avant 10h, mais tout de suite, le débat, les finances publiques, alerte à la dérive, on décrypte la mise en musique de ce vrai faux suspense.
Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte.
Et donc
On n'arrête pas l'écho. Le débat.
Le président de la République a demandé au président de la Cour de faire un rapport pour 2017, pour le budget de cette année, et qui sera rendu au 1er juillet au Premier ministre.
Gérald Darmanin, ministre du Budget.
C'est sans doute le rapport le plus important, parce qu'il va conditionner évidemment cette année et puis le quinquennat.
Des finances publiques qui dérapent. Un déficit en nette hausse. C'est le constat accablant de la Cour des comptes, révélé dans le journal Les Échos ce matin.
Ces travaux de la Cour se sont appuyés sur des sources nombreuses.
Didier Migaud, président de la Cour des comptes.
Suivent deux constats relatifs aux années à venir. En 2017, sans mesure de redressement, le déficit public devrait dépasser 3 points de PIB. Un effort d'économie sans précédent sera nécessaire pour respecter la trajectoire du programme de stabilité.
Nous héritons donc d'un dérapage de plus de 8 milliards d'euros.
Édouard Philippe, Premier ministre.
C'est inacceptable. Je souhaiterais que les Français mesurent l'ampleur de ce dérapage. C'est comme si le gouvernement précédent avait construit un budget en oubliant celui de la justice. 8 milliards d'euros de promesses non financées, 8 milliards d'euros de chèques en bois.
Je ne conteste pas l'idée qu'il y aura nécessairement des ajustements.
Stéphane Le Foll, ancien porte-parole du gouvernement Valls.
Ça, je ne conteste pas. Je conteste cette espèce de procès qui arrive là demain et qui va dire insincérité, mensonge, regardez, pour permettre derrière, potentiellement, à ceux qui auront à décider, de pouvoir dire
Gilles Manchel,
on va pouvoir serrer la vis.
Je souhaite que nous tenions nos trajectoires de finances publiques.
Éric Woerth, président de la Commission des Finances de l'Assemblée.
Pour être en dessous de 3% en 2017, et aujourd'hui, je ne vois rien dans les efforts qu'il doit faire, je ne vois rien d'annoncé, que le gouvernement publie réellement les efforts qu'il veut faire. Monsieur Macron ne l'a jamais fait. Il a juste dit, je vais faire des économies à hauteur de 60 et des dépenses à hauteur de 50.
Et nous allons prendre des mesures d'économie.
Gérald Darmanin, ministre du Budget.
Ce que les Français doivent comprendre, c'est que nous ne ferons pas comme avant. Avant, pour combler les trous, on augmentait les impôts. Il n'y aura pas de collectif budgétaire à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Et les préconisations de la Cour des comptes,
bien
alors
sûr.
Qu'en pensez-vous? Le gel du point d'indice des fonctionnaires, ça pourrait être une option?
Tout à fait, ce soir, je peux vous dire qu'il n'y aura pas d'augmentation du point d'indice pour les agents de la fonction publique.
Il reste gelé.
Au-delà de la méthode...
Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU.
Il y a évidemment quelque chose d'inacceptable que de considérer une fois encore que parce qu'on a un sujet dépenses publiques dans le pays, la première mesure qu'on prend, c'est de sanctionner 20% des salariés du pays.
Que se passe-t-il? La Cour des comptes qui nous dit que le déficit public dérape, est-ce que c'est grave? On en débat donc avec Emmanuel Lechypre et Christophe Rameau. Je me tourne tout de suite vers le professeur, parce que déficit public, il nous faut un exercice de définition. Déficit public, que nous dit exactement la Cour des comptes sur quoi, sur ce déficit?
Le déficit, c'est quand les recettes sont inférieures aux dépenses. Voilà. Alors le déficit, il baisse. C'est-à-dire qu'on était à 3,4 en 2016, et là on nous annonce qu'en 2017, il sera à 3,2, alors qu'on s'était engagé à 2,8. Alors la question qui se pose, bien entendu, c'est est-ce si grave, docteur, ou est-ce que la Cour des comptes, pour le coup, joue à nouveau, comme elle le fait tous les ans, les diavoirs russes, en nous disant c'est absolument effroyable, donc il faut une nouvelle cure d'austérité. C'est ce que la Cour des comptes, maintenant, de mon point de vue, qui est plutôt keynésien, qui est même très keynésien. En fait, la Cour des comptes a un discours vraiment de dogmatisme libéral extrêmement marqué sur la question des finances publiques. C'est-à-dire qu'elle conseille, si vous voulez, quand vous lisez le rapport, qui fait plus de 250 pages sur l'état des finances publiques en général, il y a un mot qui n'apparaît pas, sur lequel nous reviendrons dans l'émission, c'est le mot multiplicateur. C'est-à-dire que la Cour des comptes n'intègre pas ce qu'aujourd'hui le FMI, l'OCDE intègrent, qui est que les dépenses publiques, c'est pas à fond perdu, c'est pas un puits sans fond. La dépense publique, en fait, ça soutient massivement, y compris l'activité privée. Ça, même le FMI, l'OCDE aujourd'hui, le retiennent, l'acceptent, et ça, on ne trouve pas du tout dans le rapport de la Cour des comptes.
La Cour des comptes, elle nous dit qu'il manque quoi? Combien, Emmanuel Lechypre, exactement?
Alors, la Cour des comptes, c'est même pas qu'elle est libérale, c'est que c'est juste comptable, quoi. Voilà, c'est une approche qui est extrêmement comptable et qui ne tient pas compte, c'est vrai, des effets dynamiques dans l'économie. La Cour des comptes, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, il y avait deux objectifs. Il y avait l'objectif qui avait été fixé par François Hollande pour l'année 2017, qui visait à ramener le déficit public à 2,8% du PIB. Et puis à côté de ça, il y avait des engagements qui avaient été transmis pour les 5 ans à venir à Bruxelles. Or, ce que nous dit la Cour des comptes, c'est que le déficit ne sera pas de 2,8% du PIB cette année, mais il sera de 3,2%, ce qui fait un écart de 0,4% du PIB, soit à peu près 8 à 9 milliards de décalage à trouver. Et ce que dit la Cour des comptes, c'est que ce décalage, il vient de deux choses. Il vient d'abord de surestimation de recettes à hauteur de 2 milliards, c'est-à-dire qu'il y avait des recettes qu'on espérait et qui ne sont pas rentrées. Et puis surtout, il y a eu des dépenses supplémentaires. Et c'est vrai que tout au long des derniers trimestres du quinquennat de François Hollande, alors il y avait des choses prévisibles, hein, la montée en puissance des crédits d'impôt comme le CICE, mais il y a eu aussi des baisses d'impôts sur le revenu, il y a eu des mesures pour les agriculteurs, il y a eu le surcoût de la nouvelle assurance chômage, il y a eu les dotations en capital d'Areva qui n'étaient pas prévues. Et donc résultat, on se retrouve avec 8 années milliards de déficit, sachant que l'objectif d'Emmanuel Macron, lui, c'est pas de les 2,8% initiaux de François Hollande, c'est 3%. Donc grosso modo, si on veut tenir cet objectif des 3% du PIB en 2017, il faut trouver cette année 4 milliards d'euros d'économies. Et le Premier ministre nous a dit que ça ne serait pas des hausses d'impôts, mais que ce serait des baisses de dépenses. Donc il va falloir trouver 4 milliards de dépenses en moins cette année, ce qui ne devrait pas être très difficile.
3%, ça c'est la barre. Il faut rappeler aussi, Christophe Rameau, que c'est un engagement que nous avons pris, c'est le pacte avec les Européens.
C'est une règle européenne qu'un commissaire européen, Romano Prodi, avait qualifié lui-même de stupide. Il faut savoir que les États-Unis, qui sont pas stupides, au moment de la crise suite à la crise de 2008, ils ont poussé leur déficit jusqu'à 13 points du PIB. On est loin de la règle des 3%. Le Royaume-Uni était jusqu'à 11 points. La question qui se pose, si vous voulez, c'est vous allez me dire un déficit, c'est mal, mais non. Vous aviez un économiste ultra-libéral du 19e siècle, le roi Beaulieu, qui disait attention hein, sur les comptes publics. Il faut pas que il faut pas que le déficit public excède l'investissement public. Ben, c'est du bon sens, si vous voulez. Il y a pas de raison que quand on construit des écoles, des commissariats, des hôpitaux, qui vont servir pendant des décennies. Il n'y a pas de raison de les financer dans l'année. Si on demandait à une entreprise de financer ses investissements dans l'année, ça serait totalement stupide. D'ailleurs, c'est un chiffre dont on parle jamais. Vous savez, on peut calculer le déficit des entreprises. C'est ce qu'on appelle le besoin de financement. On trouve ça dans les comptes de la nation. Et on s'aperçoit qu'en 2009-2010, suite à la grande crise, le besoin de financement, c'est-à-dire le déficit des entreprises, avait baissé. Alors on pourrait dire c'est génial, le déficit des entreprises baisse, mais c'est une catastrophe. Ça veut dire qu'elles investissaient moins parce qu'il y avait la crise. Donc je reprends, le déficit public, de mon point de vue, c'est absolument pas un mal, au contraire, il faut du déficit public. Il peut y avoir trop de déficit, c'est comme le chocolat, si vous voulez, hein, la dépense publique, le déficit, c'est comme le chocolat, on peut faire des excès, donc on peut faire attention, bien entendu, mais en soi c'est une bonne chose. Et le problème qu'on a avec les règles que vous avez rappelées, c'est que l'objectif, c'est même pas 3%. La trajectoire, c'est d'arriver à l'équilibre. Hein, c'est d'arriver à l'équilibre.
Autant de recettes que de dépenses.
Mais il faut pas que le déficit structurel, c'est-à-dire que le déficit normal, excède 0,5%, c'est-à-dire l'équilibre. Donc, l'horizon qu'on a comme mode de gestion à l'échelle de l'Europe, c'est un horizon d'austérité budgétaire. C'est un horizon d'austérité budgétaire à l'infini. C'est un horizon et de ce point de vue-là, il est très libéral, cet horizon. C'est un horizon qui nous dit, en fait, la dépense publique, c'est toujours Christophe, de la mauvaise graisse.
Christophe, le problème, c'est que le déficit en soi, effectivement, n'est pas mauvais. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas vivre tous les ans, quel que soit le contexte économique, avec des déficits très importants. La réalité, c'est que il y a des années où, quand l'économie va bien, vous devriez plutôt faire des économies et mettre de l'argent de côté, donc faire moins de déficits. Or, la France, ça n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire qu'année après année, nous accumulons des déficits qui viennent gonfler une dette qu'un jour il faudra rembourser. Et le problème, c'est que le discours théorique, il est très beau sur les dépenses d'investissement, etc. Mais la réalité, c'est que 95% de la dépense publique française, ça n'est pas de l'investissement, c'est du financement du train de vie de l'État. Donc là-dedans, il y a des choses très utiles. Mais le vrai sujet, c'est absolument pas le niveau de la dépense, par exemple. C'est qu'est-ce qu'on en fait de cette dépense. Mais ça, on y reviendra. Pourquoi c'est important les 3% de déficit bêtement sur le plan, je vais dire, presque légal, parce qu'effectivement on peut se dire, oh, après tout, qu'on fasse 3% de déficit cette année, qu'on en fasse 2,9, 2,8, ça change pas fondamentalement le contexte macroéconomique. Sauf que dans les règles européennes, il y en a une qui fait que quand vous dépassez le déficit de 3% deux années de suite, on ne vous autorise pas de joker. Or, Emmanuel Macron, il va avoir besoin d'un joker très important. C'est quoi? C'est cette mesure qui va consister à faire basculer le crédit d'impôt compétitivité emploi qui est un crédit d'impôt en charge définitive. Et ça, ça va créer 20 milliards d'euros sur une année de déficit supplémentaire. Or, la Commission européenne tolère, entre guillemets, ce genre de coup de fusil à un coup, entre guillemets, quand vous avez des comptes équilibrés. Si jamais on dépasse ce niveau des 3% pendant 2 années de suite, eh bien, cette mesure, elle ne pourra pas être considérée comme une mesure exceptionnelle. Donc, on voit bien que derrière ce fétichisme des 3%, bah, il y a aussi des contraintes qui font que c'est un peu le reste de la politique fiscale d'Emmanuel Macron qui risque d'être un peu compromise ensuite.
Christophe Rameau, je pense qu'on vous mettra pas d'accord tous les deux sur la nécessité ou pas de respect, ça va être difficile. Est-ce que vous avez regardé, pourquoi on dépasse cette fois-ci? Parce qu'il y a tout ce débat sur l'insincérité. Est-ce qu'on a eu des mauvaises surprises ou est-ce qu'on n'a pas du tout fait d'efforts pour baisser le déficit pendant le quinquennat?
On a fait des efforts colossaux. Il faut savoir que la dépense publique, elle augmente beaucoup moins vite qu'elle n'augmentait précédemment.
Mais elle augmente toujours.
Elle augmente toujours, mais c'est pas ça. Alors, le chiffre, il y a un chiffre que je peux pas laisser passer. Vous avez évoqué tout à l'heure.
Allez-y.
Quand vous me dites 5% de la dépense publique, c'est de l'investissement et 95% c'est le fonctionnement de l'État, non, absolument pas. Alors, l'investissement public, tout d'abord, effectivement, c'est 80 milliards, très bien. Il faut savoir qu'il a baissé à cause de l'austérité, comme quoi on en a fait. Il a baissé pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, de façon aussi importante, ces 5 dernières années. On a 10% au moins d'investissement public, c'est essentiellement dans les collectivités locales, et je vous assure que dans le secteur du BTP, les patrons, ils souffrent ici, et ils le disent, à cause de cette austérité. Mais le reste de la dépense publique, c'est absolument pas des dépenses de fonctionnement de l'État, c'est l'essentiel. Vous avez 380 milliards, ça c'est le paiement des services publics, d'accord ? La dépense publique c'est 1200 milliards. Hein. 380 milliards c'est le paiement des services publics dans lequel effectivement il y a le salaire des fonctionnaires, c'est bien normal, il faut payer les fonctionnaires, très bien. Et puis le plus gros morceau de la dépense publique, ce sont des sommes qui sont prélevées, mais qui sont immédiatement reversées aux ménages et aux entreprises. C'est-à-dire sous forme de prestations. Eh bien, les prestations sociales, essentiellement. Donc, par exemple, les prestations, ce qu'on appelle les prestations sociales en espèces, c'est essentiellement les retraites, c'est 450 milliards. Et qu'est-ce que font les retraités avec leurs pensions de retraite? Eh bien, ils dépensent auprès du privé. Je termine sur un point très important. C'est que on comprend là maintenant pourquoi quand on baisse à marche forcée la dépense publique, alors que le privé va mal, parce que la crise de 2008, elle vient quand même du privé. On est toujours.
On comprend votre multiplicateur.
Eh bien, le multiplicateur. Oui. C'est-à-dire, quand on baisse la dépense publique, en fait, on baisse d'une part la production des fonctionnaires, parce que les fonctionnaires, ils contribuent au PIB. Et puis, par ailleurs, avec leur salaire, ils dépensent auprès du privé. On baisse toutes les prestations sociales. Et donc, résultat des courses, y compris la dépense auprès du privé, a tendance à se contracter.
Non, mais Christophe a une espèce de religion. De la dépense publique, sans voir que la réalité, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette dépense publique. Moi, je veux bien dire que la dépense publique, ça soutient la croissance, mais vous m'expliquerez dans ces cas-là pourquoi la France, avec 57% du PIB de dépense publique, est le pays dans lequel cette dépense publique a quasiment le plus augmenté de tous les grands pays développés, et que c'est celle qui a fait le moins de croissance. Comment se fait-il qu'on soit aussi le pays dans lequel il y a le plus de chômage? Ce que je veux dire, c'est que ce lien entre la dépense publique et la croissance, il n'existe pas. Christophe, vous avez des pays dans lesquels la croissance est très forte, avec un niveau de dépenses publiques faible et un niveau de dépenses publiques élevé. Oui. La réalité en France, moi je suis pas attaché, ça me dérange pas qu'on ait 50% de dépenses publiques. Ce qui me dérange, c'est que le rapport qualité-prix de cette dépense publique soit désastreux. Si on enlève les effets de l'atypicité de notre protection sociale, etc., sur la gestion pure de l'administration, on dépense 60 milliards d'euros de plus pour gérer juste notre administration que les pays voisins. Or, globalement...
Non, ça c'est pas vrai. Les services généraux,
si,
la France est en dessous.
C'est 3 points
de PIB. La France...
C'est 25 en moyenne et c'est 28 chez les autres.
On va avancer sur les mesures d'économie qui nous attendent
voilà,
là
donc,
quand même.
Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas considérer que aujourd'hui la situation est satisfaisante. Je vous prends juste l'exemple de l'éducation nationale pour montrer l'absurdité du système français. Grosso modo, l'éducation nationale, les résultats sont... Si on est gentil, médiocre, on se traîne dans tous les classements internationaux. Nos enseignants sont les plus mal payés, 30% de moins qu'un enseignant allemand. Et pourtant, notre système d'éducation nationale coûte 10 milliards de plus que les pays qui ont un niveau d'élèves comparable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'éducation nationale, comme dans la police, comme chez les infirmiers, il y a une paupérisation des gens qui sont en front office face aux clients et que c'est dans les bureaux, c'est le back office derrière. Voilà. Donc peut faire beaucoup mieux en dépensant beaucoup moins, et c'est pas le niveau absolu de dépenses publiques.
Christophe Rameau, vous répondez à ceci, puis ensuite,
savez, y a des pays
on parle des mesures
d'économie. Un très fort niveau de dépenses publiques, similaire à celui de la France,
bien.
La Suède, le Danemark, où la dette publique Et parmi les plus faibles, ils ont une très faible dette publique. Il y a des pays où la dépense publique est plutôt faible.
Ouais.
Le Japon, ils ont une dette publique à 240% du PIB, ce qui les empêche pas de vivre, hein, d'ailleurs, puisqu'en fait, la dette publique, ce qui est important, c'est les intérêts qu'on paye chaque année, c'est 2%, c'est pas 95%, ça, à la rigueur, ce chiffre est pas très important. Sur l'efficacité de la dépense publique, bien sûr, Emmanuel Le Chip, qu'il faut toujours s'interroger sur l'efficacité, bien sûr qu'il peut y avoir parfois des gabegies et qu'il faut les pourchasser.
En France,
bien
c'est
sûr.
Le seul sujet,
Par contre, par exemple, sur l'éducation, la raison pour laquelle on a plus de dépenses d'éducation qu'en Allemagne, eh bien, c'est parce qu'on fait plus d'enfants. Alors, il y a un moyen pour réduire la dépense publique. C'est qu'on fasse moins d'enfants.
En tout cas, on a la maternelle.
Il y a moins d'enfants en France. Ça serait une solution.
Oui, allez-y. Parce qu'il nous reste quand même un peu moins de 3 minutes pour parler de ce qui attend les Français. Alors, je vais aller vite. Donc, on a compris que l'engagement européen, casser la barre des 3%, non, ça va pas se faire. C'est pas la bonne piste. Les hausses d'impôts, on a entendu que c'est pas la piste non plus. Alors, qu'est-ce qui attend les Français? Les mesures d'économie? Allez-y, Emmanuel, le chiffre.
La réalité, c'est qu'il y a deux, on peut imaginer une sortie par le bas et une sortie par le haut. La sortie par le bas, c'est la sortie du coup de rabot, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller racler tous les fonds de tiroir pour faire des économies et sans toucher à rien. Et puis, si Emmanuel Macron est à la hauteur des ambitions qu'on lui prête et que de ce qu'espèrent les Français, ce serait, moi, à mon sens, l'occasion de dire, eh ben allons-y, remettons à plat cette question de la modernisation de l'État. Parce que commencer par geler le point d'indice des fonctionnaires, mais c'est terrible, c'est terrifiant. Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est dire aux fonctionnaires, allez, on fait ensemble un grand projet de modernisation de l'administration pour qu'elle coûte beaucoup moins et qu'elle rende des services beaucoup plus efficaces. Alors, il y a tout un tas de projets sur, effectivement, la simplification Internet de tout un tas de démarches, etc. Donc, il serait urgent d'envoyer ce signal-là. Sinon, après, on va avoir peut-être des réformes fiscales qui étaient promises et qui seront sans doute reportées au moins d'un an. S'ils reportent la taxe d'habitation, la baisse de la taxe d'habitation, par exemple, j'ai peur que les effets soient quand même politiquement assez désastreux.
Christophe Rameau, qu'est-ce qui attend les Français?
L'essentiel de la dépense publique, c'est je vous dis, hein, c'est pas fibre des fonctionnaires. L'essentiel de la dépense publique, on le retrouve dans la poche des ménages. Hein, c'est-à-dire que ce sont les retraites, le remboursement des médicaments, les allocations familiales, etc. C'est ça. La majorité, plus de 55% de la dépense publique, ce sont des prestations sociales. Très bien. Donc si on touche à ça, on risque de briser à nouveau. Qu'on fait, là, on a une légère reprise, là, et ça fait des années qu'on fait ça. On a une légère reprise. Dès qu'on a une légère reprise, on dit, ah là 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 là, il faut faire plus d'austérité, et donc ça tue dans l'œuf la reprise. On ne peut pas réduire les déficits et les dettes sérieusement, de façon progressive, s'il n'y a pas de croissance. Regardez, il y a un pays qui a fait de l'austérité brutale, hein. C'est la Grèce. Eux, ils ont baissé leurs dépenses de 20% en volume. Résultat des courses, le PIB s'est effondré de 27%. Et vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas besoin de prolonger le tableau dans sa noirceur. Donc, je pense que on est dans une situation aujourd'hui, on est à l'aube d'un nouveau quinquennat. Ça donne le ton. Ce que devrait faire le nouveau gouvernement, c'est de dire, mais écoutez, on a quand même 6 500 000 personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. On a plein de besoins insatisfaits. La rénovation thermique des bâtiments, les transports collectifs, les hôpitaux qui vont... Eh bien, mobilisons-nous tous, publics, privés, on contribue tous au PIB, mobilisons tous pour essayer de satisfaire ces besoins et créer les emplois pour les satisfaire.
Allez, on va continuer à parler finances publiques. Quand je me considère, je me désole. Quand je me compare, je me console. Est-ce que ça marche avec l'Allemagne?
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Bonjour Cyril Sauvageau.
Bonjour.
Cyril, vous êtes le correspondant de France Inter en Allemagne où le tableau est radicalement différent. Chez vous, les finances publiques vont bien. Le ministre des Finances vient de présenter d'ailleurs son projet de budget pour 2018. On peut dire qu'il y a de la marge de manœuvre pour les mois qui viennent.
Un budget à l'équilibre, un de plus pour Wolfgang Schäuble, l'apôtre du Schwarz-Null, le zéro déficit, qui entend bien poursuivre sur sa lancée après plusieurs années consécutives dans le vert. Ce projet de budget ne sera voté qu'à l'automne, au Bundestag, après les élections législatives de septembre. En tout cas, c'est un argument de campagne solide pour le ministre des Finances d'Angela Merkel, fort de son bilan des dernières années, 12 milliards d'excédents budgétaires en 2015, 6 milliards en 2016. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, des rentrées fiscales plus importantes que prévues grâce à la bonne santé de l'économie allemande et un taux de chômage au plus bas depuis la réunification. Et ensuite, la faiblesse des taux d'intérêt. Tout ça a permis à l'Allemagne de ne pas alourdir sa dette. L'objectif de Wolfgang Schäuble, c'est de maintenir cette trajectoire jusqu'en 2021 pour ramener la dette allemande dans les clous du traité de Maastricht en dessous des 60% du PIB.
Cyril, donc en Allemagne, il n'y a pas de débat sur la dérive ni le dérapage des finances publiques. En revanche, il y a un débat sur ce qu'il faut faire de l'argent, de l'excédent.
Et c'est là que ça se complique, puisqu'évidemment chacun a son idée sur la question. Il y a d'un côté les partisans des baisses d'impôts, les conservateurs bavarois de la CSU en première ligne. Ils estiment qu'il faut donner de l'air aux contribuables allemands. Angela Merkel a déjà donné des gages à l'approche des élections en promettant 17 milliards d'euros de baisses d'impôts pendant la prochaine législature, avec déjà 6 milliards en moins en 2017 et 2018. Et puis il y a ceux qui plaident pour une relance massive de l'investissement. Vous le savez, c'est la critique qui est faite à l'Allemagne de façon récurrente de ne pas réinjecter suffisamment d'argent pour stimuler la zone euro. Il faut dire que l'Allemagne a cruellement besoin d'investissements publics pour les infrastructures, les réseaux internet par exemple. Cette politique d'investissement, elle a commencé, c'est ce que dit le ministre des Finances, mais pas suffisamment, estiment les sociaux-démocrates du SPD. À noter toutefois que l'État fédéral a consacré depuis 2 ans des sommes colossales à l'accueil des réfugiés et ça va continuer, puisque plus de 90 milliards d'euros sont prévus d'ici la fin de la décennie.
Une dernière question, Cyril. On va profiter du fait que vous êtes avec nous depuis Berlin. Est-ce qu'on parle en Allemagne de ce dérapage du déficit public français, de la capacité de Paris à tenir le délai pour la barre des 3%?
Ben oui, parce que c'est un engagement non tenu et ça contribue à fragiliser la confiance dans le couple franco-allemand. C'est aussi un symptôme du décrochage de plus en plus inquiétant de la France par rapport à l'Allemagne. Un sujet d'inquiétude donc, et qui explique en partie pourquoi Emmanuel Macron est tellement apprécié ici en Allemagne. Parce que parmi les candidats à la présidentielle en France, il a été, pour ainsi dire, le seul à s'engager fermement à respecter les engagements budgétaires européens. Les Allemands attendent maintenant de savoir si cette promesse sera tenue.
Voilà le débat dépenses-investissements, l'effet miroir. Merci à vous Cyril Sauvageau, merci à notre débatteur Christophe Rameau, Emmanuel Lechypre. C'était notre dernier débat éco avant l'été. À présent, l'invité dont on n'arrête pas, c'est une femme qui a fait la une cette semaine et bien au-delà des frontières françaises. C'est la star de la Commission européenne, celle qui propose aux citoyens une autre vision de Bruxelles. Elle est la femme qui fait trembler les multinationales, qui pourchasse Amazon, Starbucks, Apple pour qu'ils paient leurs impôts. Mardi dernier, Margrethe Vestager, c'est son nom, a aussi rappelé à Google qu'il y a des règles en Europe. Amende record, 2,420 milliards d'euros pour abus de position dominante. Ce samedi, je vous propose donc un entretien exceptionnel avec la commissaire européenne à la concurrence.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter. Alexandra Ben Saïd.
Margrethe Vestager, hello, bonjour.
Hello, bonjour.
Une décision historique, c'est ce qu'on entend au sujet de cette amende que vous infligez à Google. Vous, qu'en pensez-vous ?
I think it's an important decision.
C'est une décision importante, en effet. Elle montre qu'aucune entreprise n'est au-dessus des lois et que toutes doivent respecter des règles d'équité sur le marché pour que la concurrence s'exerce de manière loyale et non faussée.
Je voudrais comprendre ce que votre décision pourrait changer pour les consommateurs, pour les chefs d'entreprise. Que fait exactement Google de mal aujourd'hui ?
Well, you know, most of us, we Google things.
Eh bien, vous savez, nous tous, on se sert de Google au quotidien. C'est d'ailleurs passé dans le langage commun, c'est devenu un verbe. On Google quelque chose sur Internet, par exemple. Et Google a ainsi acquis une position dominante. C'est le moteur de recherche préféré, favori quand on fait des recherches sur Internet. Alors déjà, cela affaiblit la concurrence. Ils sont très efficaces, tout le monde se sert de ce moteur de recherche. Et lorsque vous êtes si puissant, vous avez une responsabilité particulière de ne pas abuser de ce pouvoir sur votre marché et sur les autres marchés. Or, ce qu'on a découvert, c'est que de manière illégale, Google a abusé de sa position dominante pour assurer son autoproduction avec le produit Google qui s'appelle Google Shopping. Eh bien, Google Shopping apparaît en premier quand on effectue des recherches, alors que d'autres comparateurs de prix, par exemple Twenga, Quelku, PriceRunner, ne vont apparaître, par exemple, qu'en page 4 des résultats de recherche. Personne ne va aller voir là-bas. Et ça, c'est illégal comme pratique. Ça confère à Google un avantage, non pas sur son propre mérite, mais juste à cause de sa domination.
Ça nous apprend quelque chose, non, sur la stratégie de Google en particulier, et plus généralement sur tous ces services qui se disent gratuits.
Yes, I think so.
Oui, je crois que oui. Il faut bien se rappeler, enfin j'essaie d'en prendre conscience à chaque fois que je vais sur Internet, même si on ne me demande pas de sortir ma carte de crédit pour payer, je paye avec mes données, les données personnelles, mes données de recherche, la fréquence de mes recherches, à quel moment je les fais. Lorsqu'une entreprise dispose de toutes ces données, elle peut améliorer ses services. Les annonceurs donc vont faire davantage d'argent, ils vont affluer vers vous. Donc plus vous êtes bon, plus vous devenez omniprésent et ça peut devenir très difficile pour les concurrents d'entrer dans la boucle. Quand nous tous, nous sommes prêts à payer nos recherches uniquement en livrant, divulguant notre comportement et nos données personnelles.
Margaret Vestager, vous avez donné 90 jours à Google pour changer de mode opératoire. 90 jours seulement pour obéir à la Commission européenne. Ça, c'est du jamais vu.
Yes, but what you saw when Google...
Oui, mais vous savez, lorsque Google a déployé cette stratégie en 2008, tout s'est passé très, très vite pour certaines de ces entreprises qui avaient été dégradées. Certaines ont perdu 90% de leurs visiteurs sur leur site, de leur trafic Internet. Donc, on veut rétablir une concurrence équitable avec un traitement équitable de la part de Google par rapport à ses concurrents. Et on leur a donné très peu de temps, oui, parce qu'il est temps que les consommateurs aient de véritables choix lorsqu'ils essayent de découvrir quels sont les meilleurs produits, les meilleurs prix, les meilleures qualités.
Parlons du montant de l'amende, 2 milliards 420 millions d'euros. Certains soulignent quand même que pour Google, ça n'est pas grand-chose.
Well, it is always, always a balance.
Bon, c'est toujours une question d'équilibre. Bon, moi, personnellement, je trouve que c'est une somme assez considérable. Et puis, ça reflète le fait que ces pratiques illégales se déroulent depuis presque 10 ans. Et de très nombreux Européens ont été affectés. Parce que ce comportement illégal de Google a touché 13 pays européens. Donc, c'est quelque chose à prendre au sérieux et le montant de l'amende doit refléter cela. Et Google devra payer cette amende, même s'ils font appel de cette décision. L'appel n'est pas suspensif. S'ils font appel et qu'on remporte l'affaire, eh bien, cette amende reviendra aux citoyens européens. Ce sera mis dans un compte et pour les contributions à verser par chaque État membre, l'année suivante, eh bien, on déduira au prorata en fonction de cette amende. Donc, cet argent, cette amende reviendra dans les poches des citoyens européens par l'intermédiaire de leur gouvernement.
Cette amende concerne Google Shopping, mais vous avez deux autres enquêtes en cours hein, qui concernent Google. Ça n'est donc que le début.
Yes, we have two more Google cases.
En effet, nous sommes en train d'examiner deux autres dossiers liés à Google. Nous avons déjà envoyé ce qu'on appelle les communications des griefs. Il s'agit de conclusions préliminaires, mais nous nous sommes aperçus que là encore, Google n'avait pas respecté les règles, à savoir, ils se sont servis du système d'exploitation Android pour obtenir des avantages, toujours sur les moteurs de recherche, sur les appareils mobiles. Et ça devient très difficile de rivaliser avec Google, y compris pour les annonceurs, pour toute la publicité. Donc, il y a encore des affaires, des cas qui devront passer devant les tribunaux. Et puis, ce n'est pas fini. Il y a encore Google Maps, Google Images, Google Travel. Ça aussi, c'est sur notre bureau, on va y travailler.
Margaret Vestager, Google est donc presque un monopole. Or, nous, en Europe, à la fin des années 90, nous avons cassé les monopoles, spécialement dans le secteur des télécoms. Alors, certains se demandent aujourd'hui, et moi je vous pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas démanteler Google ?
Well, I think... That would be to take a very, very far-reaching...
Bon, il s'agirait là d'une mesure avec de très lourdes conséquences. Il s'agit d'une entreprise privée. Ce que l'on peut dire... à partir du fait que l'Union européenne est fondée sur l'état de droit, eh bien, dès lors qu'on détecte des pratiques illégales, il faut les sommer de cesser ces pratiques, leur donner ce délai de 90 jours et appliquer un traitement équitable, les sommer d'appliquer un traitement équitable avec leurs concurrents, notamment, encore une fois, pour l'ordre dans lequel apparaissent les résultats de recherche avec le moteur de recherche de Google. Et puis, on va voir ce qui se passe. Mais le plus important, c'est que nous, en tant que consommateurs, puissions tirer les avantages d'une bonne concurrence saine, des véritables choix, l'accès à des produits innovants et ne pas nous contenter de ce que veut bien nous montrer une entreprise dominante.
Mais par rapport aux années 90, la différence, c'est qu'aujourd'hui, il s'agit du monopole d'une entreprise privée. À l'époque, c'était des monopoles publics. Est-ce que c'est cela que vous me dites ?
Non, that was not my point, because there is.
Ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. Il existe un fondement, il y a des fondements juridiques qui pourraient nous permettre de prendre des mesures très radicales concernant la structure d'une entreprise. Mais là, je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire contre Google, mais il faut s'assurer que Google cesse ses pratiques illégales de manière, encore une fois, à ce que nous, citoyens, consommateurs, tirions les avantages d'une saine concurrence et que Google prenne ses responsabilités. En tant qu'entreprise dominante, il doit assumer les responsabilités qui lui incombent.
Encore une fois, Bruxelles est suspectée de prendre parti contre une entreprise américaine. Vous aviez déjà des relations difficiles avec l'administration Obama. L'administration Trump a-t-elle réagi cette semaine ?
No, we did not. I take these accusations very, very seriously.
Non, aucune réaction. Mais toutes ces accusations, je les prends très au sérieux. Nous vivons encore une fois dans une Union européenne fondée sur l'état de droit et notre travail doit être ancré, fondé sur des faits, des preuves et sur la jurisprudence. Il n'y a pas là d'espace pour des partis pris ou des petits jeux politiques. Et dans nos tribunaux, eh bien, on se moque de la nationalité d'une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, les juges voudront entendre les faits. Et qu'il s'agisse de contrôle des fusions, contrôle antitrust ou des subventions étatiques, je n'ai rien découvert dans tout ce qu'on fait au niveau européen qui aille contre les États-Unis.
Margrethe Vestager, vous êtes aussi cette commissaire à la concurrence qui exige qu'Amazon, Starbucks, Apple leurs impôts. Est-ce que vous suivez le dossier fiscal de Google en France ? Le fisc lui réclame, on dit, 1,6 milliard d'euros.
Yes, of course, I follow it.
Oui, bien sûr, je suis cette affaire à distance, mais je crois qu'il est très important que les services fiscaux de tous nos pays s'intéressent à la manière dont les entreprises multinationales s'organisent pour le paiement de leurs impôts. Et toutes les lois qui ont été votées au cours des deux dernières années par le Conseil de l'Europe et dans une certaine mesure par le Parlement européen et aussi, eh bien, facilite le travail des autorités fiscales. En effet, cela assure davantage de transparence et les services fiscaux échangent beaucoup d'informations maintenant. Et ça, c'est essentiel. Car ce n'est pas aux petites et moyennes entreprises seules de financer nos économies et les budgets des États. Non, c'est à toutes les entreprises de contribuer à nos sociétés. La démocratie en a décidé ainsi.
Mais derrière l'optimisation, l'évaporation fiscale, il y a toujours un État complaisant. Est-ce que le vrai sujet, ce n'est pas la concurrence fiscale entre les États membres ?
Yeah, but one thing is tax competition.
La concurrence fiscale, bon, c'est une chose, mais on l'a accepté. On a accepté dans le traité européen que chaque État membre fixe ses propres taux d'imposition sur les entreprises. En Irlande, l'impôt sur les entreprises s'élève à 12,5%. Dans d'autres pays, les entreprises payent encore moins, voire en dessous de 1%. Mais c'est laissé libre. Mais si, en particulier, les multinationales payaient les impôts qu'elles doivent, qu'il s'agisse de 12,5% ou de 20 ou voire 22%, eh bien, nous arriverions à mieux financer nos économies et nos budgets d'État. De même que tous les particuliers, nous tous et les PME, payent leurs impôts. Donc, on peut tolérer cette concurrence fiscale du moment que toutes les entreprises payent leurs impôts.
Margrethe Vestager, j'ai lu, j'ai entendu combien vous êtes une commissaire courageuse. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit ? Est-ce qu'il faut du courage, tout simplement pour utiliser les outils de contrôle qui existent ?
No, I don't think so. I think,
non, je ne crois pas.
What is tax is is the fact that we are 500 million citizens.
Ce qu'il y a, c'est que nous sommes 500 millions de citoyens européens et que nous voulons que les choses changent et que les règles soient plus équitables sur les marchés, que la concurrence soit fondée sur les mérites de chaque entreprise et pas sur des pratiques illégales ou de la triche. Et ça, c'est une de mes forces avec le portefeuille que je gère à l'heure actuelle. Eh bien, la force, c'est que nous sommes de très nombreux à vouloir que les choses soient mieux conduites.
Mais on vous imagine inondé de documents assaillis par les avocats, par les lobbyistes.
Oui, ça aurait pu, mais très tôt, dès que j'ai pris mes fonctions, j'ai décidé de ne pas rencontrer les lobbyistes. Voilà, je suis ravie en revanche de rencontrer les dirigeants des entreprises et leurs conseillers. Ce sont les dirigeants des entreprises qui portent les responsabilités, qui prennent les décisions, qui peuvent modifier la direction que prend une entreprise. Or, les lobbyistes, ils racontent simplement les histoires que veulent entendre les entreprises. Ce n'est pas ça qui m'intéresse dans mon travail. Ça m'a facilité la vie de décider de ne jamais rencontrer les lobbies.
Une dernière question, Margrethe Vestager. Il y a eu le vote du Brexit en France, dans de nombreux pays européens, on voit se développer le scepticisme, voire le rejet de l'Union européenne. Est-ce que ça a un impact sur vous ?
It's on everyone's mind. No matter where you are in our European democracy,
tout le monde a ça en tête. Où qu'on vive dans les démocraties européennes, nous voulons tous trouver le moyen de renouveler nos démocraties, d'arriver à discuter avec les eurosceptiques, mais aussi avec tous ceux qui ont de l'enthousiasme pour la démocratie européenne et avec un regard nouveau pour pouvoir changer les choses. Une chose qui a changé ces dernières années, c'est que désormais, on sent quelque chose de vibrant, un engagement et une nouvelle dynamique et un vrai désir d'améliorer les choses. Alors qu'il y a peu encore, l'ambiance était plus défensive, un peu triste, un peu défaitiste. Alors que maintenant, il semble qu'on voit plus clairement les problèmes, ce que nous souhaitons changer. Et puis, il y a cette force, cet élan d'engagement. Je sens qu'il y a une atmosphère plus progressiste. Et d'ailleurs, les élections françaises récemment ont beaucoup contribué à changer cette atmosphère. Et tous les débats pendant la campagne ont contribué à remobiliser ce désir de changer pour le mieux.
Et en tant que commissaire, il y a un engagement à démontrer que la Commission protège les citoyens européens.
Yes, that's my job.
Oui, ben ça c'est mon travail.
Margrethe Vestager, the Competition Commissioner, commissaire européenne à la concurrence. Merci beaucoup. Thank you.
C'est mon plaisir. Merci beaucoup.
Ma vie au boulot. Sandrine Foulon.
Sandrine Foulon, Maude, 23 ans, vous a écrit. Elle s'interroge sur ce futur contrat de travail qui est au menu des ordonnances pour réformer le code du travail. Elle voudrait savoir, Maude, quelle est la différence entre un CDI, contrat à durée indéterminée de chantier, et un CDD, contrat à durée déterminée de chantier. Oui, expliquez-nous.
C'est une vraie question de sémantique. Formellement, le contrat de chantier actuel est un CDI. Mais ce contrat s'achève quand se termine la construction d'un bâtiment, d'un pont, d'un bateau. Ça peut durer 6 mois, 1 an, 10 ans. Il n'y a aucune date de fin de mission sur votre contrat de travail. C'est un contrat à durée indéterminée, déterminée par la durée de la mission. Maud, j'espère que vous suivez toujours. On pourrait l'appeler le CDID ou le CDDI. C'est une sorte d'OGM du contrat de travail. Quand j'étais jeune, on parlait de Canada Dry. Il a l'odeur du CDI, le goût du CDI, mais ce n'est pas un vrai CDI. C'est très pratique pour les employeurs. La rupture est tout à fait sécurisée. Le contrat de chantier est plus facile à rompre qu'un CDD. Et on ne le répétera jamais assez. En France, on arrête plus facilement un CDI qu'un CDD. Dans le contrat de chantier, la fin de mission constitue en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'entreprise n'a pas à redouter de contestation au prud'homme et ça lui coûte moins cher qu'un CDD classique. Elle ne doit pas payer les 10% de primes de précarité. Le côté potentiellement négatif pour l'employeur, c'est que le salarié en contrat de chantier a tout intérêt à faire traîner les opérations en longueur.
Et c'est ce contrat, Sandrine, que le gouvernement voudrait généraliser ?
Oui, pour le moment, il est réservé au secteur du BTP. Mais demain, l'exécutif souhaite que les branches puissent négocier ce type de contrat dans un maximum de secteurs. On a déjà un contrat de ce genre pour les ingénieurs et les cadres, mais c'est un CDD à objet défini qui ne peut pas dépasser 36 mois. Et à la fin, l'entreprise doit régler la facture, la fameuse prime de précarité. Dans le cas du CDI de projet, c'est fini. Le contrat s'arrête quand s'arrête la mission et vous êtes licencié, Maud, non pas pour motif économique, mais pour motif personnel. Sans parler de contrat unique qui est une fusion du CDI et du CDD, le contrat de projet est une façon de tailler des croupières au CDI classique. Le patronat est plutôt pour, c'est une vieille revendication. Les syndicats sont plutôt contre. Tout va dépendre de l'issue des concertations estivales, car il y a beaucoup de choses dans cette réforme du Code du travail. La primauté de l'accord d'entreprise, les indemnités prud'homales, la fusion des instances représentatives du personnel, le sort du compte pénibilité, les règles du licenciement économique. On risque d'avoir un code du travail tout neuf à la rentrée et beaucoup de chroniques à écrire pour essayer de vous décoder tout ça.
Sandrine Foulon, vous la retrouvez à la rentrée.